c'est parti, ça voilà, enregistre.
C'est parti, on y est. Tu gardes le micro en main comme un vrai MC.
Oui.
Tu le mets sur le...
Coupe.
Je sais pas.
J'ai...
Et moi, si je le prenais et que je le... Voilà. Donc ça fait vraiment comme à la télé. On a nos micros. Bienvenue, bonsoir, bonjour, bienvenue dans...
Attends, ça...
Ça marche,
c'est bon. Ouais. Okay.
Voilà.
Voilà, bienvenue.
c'est ton podcast. Bienvenue, bonjour, dans l'émission avec des images numéro 14, avec Jérémy Alonzi, qui a aussi plusieurs autres noms, hein, comme Dirty Cock, Dirty Cock déjà, c'est un des...
Oui.
Voilà. On va commencer, parce que moi je te connais évidemment, mais peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui ne te connaissent pas. Si tu peux présenter brièvement qui t'es, et que, voilà, comment est-ce que toi tu te vois en tant que personne?
Je m'appelle Jérémy Alonzi, je suis né le 9 septembre 1978, j'ai grandi à Soumagne, dans une famille italienne. Avec des parents, une maman qui travaillait, qui vendait des bijoux, qui vend toujours des bijoux d'ailleurs, et un papa artiste. Et puis j'ai fait des études d'art, enfin non, j'ai eu un parcours scolaire foireux. J'ai été à Saint-Luc en troisième pour essayer de terminer ses études, pour essayer d'avoir un diplôme. J'ai réussi à l'avoir et puis je me suis lancé dans la musique jusqu'à présent.
Ok, et donc t'as jamais vraiment... C'est à Saint-Luc, tu faisais quoi? Tu faisais photo.
Ouais.
Et donc, tu n'as jamais vraiment toi-même pratiqué l'image? Tu n'as pas bossé en tant que photographe?
Non.
Jamais. J'ai dit, voilà. Tu as ce background-là, mais tu...
J'ai jamais vraiment travaillé l'image, mais j'ai toujours été baigné dans l'image à travers mon père, déjà, qui fait de l'image, qui est plasticien. Finalement, par rapport au choix des pochettes de disques que je devais faire. Donc finalement, j'ai toujours été un petit peu baigné là-dedans. Et puis on a travaillé ensemble aussi. Et,
c'était back in 2004
2004, ouais. Pour l'album...
Premier EP, en fait, qui s'appelait Tropic Blues Band. Enfin,
non, c'était...
Ah non,
Dynamite Boogie.
Ouais, Dynamite voilà. Boogie. Ouais.
Boogie Bastard.
Non, c'était pas Boogie Bastard, c'était Dynamite Boogie, je pense.
Dynamite Boogie, ouais. Une très très belle pochette avec du tape et tout ça, donc voilà.
Donc qu'on avait tenté de refaire pour l'album juste après, qui s'appelait tu sais, on avait passé toute une nuit
à faire une photo exceptionnelle, quoi.
D'ailleurs, il y a encore certains magazines de graphisme qui la diffusent. C'était un scan grandeur nature dans un garage avec des bagnoles et avec...
C'est ça, on peut d'ailleurs aller la retrouver. J'espère que tu mettras le lien en dessous de cette petite...
Voilà. Premier truc, je mettrai le lien de cette image-là parce que...
Une image incroyable avec plein de détails, un truc de fou, quoi.
On va retrouver ça, on va le mettre.
Ouais.
Mais donc, tu disais, ton père qui était plasticien, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été baigné là-dedans... Tu peux te souvenir que forcément, il t'a beaucoup parlé de ce genre de truc et que ça a forgé une partie de tes goûts d'image ou...
Mon père, il ne sait pas parler, en fait. Il n'a jamais été à l'école, il a toujours travaillé. Il ne sait pas transmettre avec sa voix, en fait. Il m'a transmis sans même le savoir, quoi. Il transmet parce que j'ai vu, en fait. J'ai vu comment est-ce qu'il abordait ça, en fait. C'est un mec qui travaillait à l'abattoir. Et donc, tous les jours, il se levait à 6h du mat et il revenait à 19h. Et tous les jours, il montait dans le grenier et il peignait.
Ah ouais.
Déjà, ça, c'est un exemple incroyable. Parce que moi, quand j'ai un petit coup de mou et que je me dis « Ah, oh, j'ai pas envie aujourd'hui » et tout ça, ben, je repense juste à ça et je me dis « Mais ferme ta gueule, vas-y. » Et même s'il y a rien qui va en sortir, c'est pas grave, fais-le, quoi. Et lui, c'était vraiment une obsession, quoi. C'était, voilà, il faisait ça tout le temps, depuis qu'il était enfant, quoi. Il raconte même que... Il y a une interview aussi que je te filerai, que tu pourras mettre en lien, où il explique... C'était un truc, c'était une vieille émission, enfin bon, bref, c'est Intérieur Nuit, je crois que ça s'appelait, et qui ont fait un portrait sur mon père. Et lui, il expliquait que, quand il était gamin, son père, il trouvait de la peinture à l'eau et tout ça, et il cassait les trucs, quoi, tu vois. Il lui foutait une torgnole après, et il lui disait, voilà, ça, c'est pas un métier, faut pas que tu fasses ça, tu vois. Et donc, tout ça, ça a été un exemple pour moi, un exemple vraiment très, très fort, quoi. C'est ça, l'apprentissage, quoi. Là, c'est ça, ce que j'en ai retiré, moi, personnellement, en tout cas. C'est une espèce d'apprentissage, mais il n'y avait pas d'enseignement. C'était un enseignement qui n'était pas forcé. Je voyais juste ça et ça m'a nourri, ça m'a forgé, en fait, quoi.
D'accord. Et tu penses que tu es en train de faire la même chose avec ton propre fils il te voit bosser, il te voit, parce qu'il te voit quand même souvent partir, peut-être en tournée, ce genre de truc.
Ouais.
Est-ce que tu crois qu'il a ce genre de...
J'appréhende les choses autrement parce que c'était très, très douloureux avec mon père, en fait, quoi. Tu vois, puisque lui, ça a toujours été, jusqu'à un certain âge, c'était pas... Je veux dire, il n'a pas du jour au lendemain gagné sa vie et tout ça avec. Je veux dire, c'était la galère, tu vois. Il était obligé d'aller travailler à l'abattoir. Donc déjà, tu es dans une ambiance de merde avec des... Tu vois, moi aussi, j'ai été travailler à l'abattoir pour mes travaux d'étudiant. Enfin, tu vois, quand j'étais étudiant. Donc j'ai pu comprendre ce que c'était. Et c'est atroce. Quand tu es artiste... Les gens qui travaillent là-bas, il n'y a pas des artistes. C'est des gens qui travaillent dur pour payer leur maison, pour payer leur bagnole. Et leur truc, c'est d'avoir une BM ou c'est de... Voilà, ils n'ont pas les mêmes envies que nous. Leur liberté ne se trouve pas au même endroit. Et donc, des fois, tu as des conflits de... T'as des conflits de... Attends, je mets un petit peu plus fort le truc... Je sais pas si on aura un bon son, j'espère, Damien.
Ah, j'espère. Ah,
voilà, j'en mets un petit peu plus fort, ouais.
J'espère aussi qu'on aura un bon son.
Ouais. Donc il y a des espèces de conflits d'idées de liberté, en tout cas, quoi. Tu vois, on n'a pas les mêmes idées. Donc tu vois, c'est dur, quoi. Tu te retrouves dans un milieu qui est pas le tien, quoi. Et après, tu rentres chez toi et tu vas dans ta bulle. Enfin, en tout cas, pour mon père, c'était comme ça, quoi. Donc ça a été violent. Lui, il était toujours le cul entre deux chaises. Dès que ma mère lui disait « oui, mais ceci », qu'elle le remettait dans la réalité du truc, il refusait, déjà parce qu'il ne sait pas bien s'exprimer, tout ça. Donc tu vois, quand ma famille, qui est plutôt du bord des gens qui mettent de l'argent dans des voitures, je ne veux pas être médisant, Et donc il ne se sentait pas compris. Et donc comme il a du mal à s'exprimer, tout ça, il pétait les plombs, quoi. Tu vois, il était là, c'était violent, quoi. Donc pour en revenir à ta question, c'était est-ce que moi j'enseigne la même chose à mon fils. J'essaye rien du tout. Oui, finalement, je fais la même chose que ce qu'il a fait avec moi. J'impose rien. Je fais les choses telles que je l'ai fait. Et puis, des fois, il débarque et je lui dis, Déli, je suis en train de travailler.
il te voit bosser, il voit que c'est important.
Il me voit heureux.
Et voilà, c'est ça.
Voilà. Il me voit heureux. Après, il pose des questions.
Ouais.
Et ça, voilà, c'est par rapport aux réponses que je lui donne que je crois que l'enseignement se fait.
Ouais, c'est ça. C'est en ça que c'est différent.
Pourquoi papa, tu vas dans ta pièce? Pourquoi papa, t'es content d'avoir fait ça? Pourquoi Et puis là aussi, je sais pas si on y arrive plus tard, mais là, je suis en train de bosser avec des handicapés et il me pose beaucoup de questions aussi par rapport à ça.
On n'est pas obligé d'attendre plus tard si tu veux en parler maintenant. Donc on va resituer un peu. Donc tu bosses dans au foyer La S à Vielsalm.
Ouais.
Qui
et chez Zonard aussi à Eusy.
À Eusy près de Verviers.
Voilà, c'est ça.
Et donc le centre. Et c'est des centres qui travaillent avec des personnes handicapées sur qui font des choses artistiques, musique, théâtre,
peinture, gravure, ils font tout en fait.
Toi là, tu fais quoi?
Moi, je suis dans un petit studio. Donc à Vielsalm, je suis dans un petit studio et donc c'est le centre où il y a les Choolers. Tu vois, Choolers Division.
Ouais.
Et donc du coup, comme les Choolers, ça prend une proportion complètement dingue. Il leur manquait un animateur musique. Parce que Antoine, l'animateur qui s'occupe des Choolers, part tout le temps en tournée. Ouais. Et quand il part en tournée, moi j'y vais et je crée avec eux. À Eusy, c'était différent. C'est Rémi Rotsart qui est venu me chercher pour aboutir à un projet concret, quoi. Sortir un disque avec une espèce de dream team qu'il a formé lui avant. Tu vois, les meilleurs, les plus talentueux de la bande, quoi. Et voilà, quoi. Faire un disque et une tournée, quoi.
D'accord. Et ben on va en parler des deux. Donc Aviel Salm, donc tu remplaces quand ils l'ont tourné, tu remplaces Antoine.
Ouais.
Antoine Boulanger, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et mais du coup tu remontes genre un autre projet ou alors tu fais enfin, tu t'occupes de quoi avec
Non, moi je suis juste là à essayer de tu sais, écoute, moi je m'amène quelque part où les gens ont pissé dans les coins, quoi. Je suis pas chez moi, tu vois. Je m'amène dans le studio, tu devrais voir le truc, c'est complètement... j'arrive quelque part où les gens ont pissé dans les coins, c'est chez eux, c'est pas chez moi, tu vois. Ça ressemble à une espèce de chambre d'ado, là, tu vois, avec plein d'instruments partout, qui sent la clope, la bière. Et donc voilà, moi, quand il est pas là... il y a des gens qui viennent, tu vois, des artistes qui viennent, quoi, des trisomiques ou des je sais pas quoi, moi, des malades. et voilà. Et puis on fait de la musique
ensemble.
On fait
des trucs.
On fait des trucs, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est dingue. Pour le moment, je suis fort reggae avec eux.
Ah ouais,
on okay. fait du reggae.
Ok.
Mais alors, il y a des. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est comment ils abordent la musique, en fait. Et il n'y a pas, c'est pas intellectualisé, quoi. C'est brut.
C'est ça.
C'est direct. Et il y a des moments, enfin, moi, après 25 ans, je crois, je fais de la musique, ouais. Et ben, c'est seulement maintenant que j'essaye de faire ça. Tu vois, d'aborder la musique de manière instinctive, en fait, quoi.
Sans y réfléchir, enfin, sans l'intellectualiser. Vraiment,
voilà. Vraiment essayer d'y penser le moins possible, quoi. Avec Tropic, par exemple, ouais. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. On enregistre des disques où les prises live, il y en a qu'une, quoi. Enfin, les prises voix, il y en a qu'une.
Ah ouais.
Voilà. Deux maximum.
C'est
du premier coup, c'est enregistré, bam, c'est stop, ok, on a le morceau, quoi.
Ok. C'est une contrainte que vous vous donnez, ou alors?
Non, c'est au service de la musique, quoi. Enfin, je veux dire, à force d'avoir fait des albums et tout ça, on s'est vraiment rendu compte que c'était comme ça que ça fonctionnait. Les moments magiques de live, c'est les impros en live, bah voilà, il y en a eu qu'une seule fois, elles n'ont pas été enregistrées, tant pis, ça ouais, ne se repassera plus jamais, tu vois.
Donc, comme les vieux disques de jazz, où y a pas un peu cette histoire mythique avec l'album de
Miles Davis, peut-être, ouais.
Où ça a été enregistré en, je sais pas, 70 heures.
Ouais, c'est ça, des prises live, mais...
En une seule prise, ouais. Et puis ça y est, quoi.
Hop, ouais, c'est ça, Captain Beefheart aussi, ouais. C'est des espèces de... C'est appeler le dieu groove, j'appelle ça, tu vois.
Ah oui, voilà.
Appeler le dieu de la musique pour qu'il
t'inonde de son...
Bah pour que la magie vienne, quoi, ouais, tu ouais. vois. Il y a des moments magiques où t'as même plus besoin de te parler. Finalement, on oublie que la musique, c'est un langage. Ah ouais. On intellectualise trop. Enfin, je veux dire, on se parle quand on joue de la musique, tu vois.
Ouais.
Et c'est essayer d'arriver à ça. Et donc, du coup, quand je travaille avec eux, moi, je suis payé à aller à être enseigné, à ce qu'on m'enseigne quelque chose, quoi, tu
c'est
vois.
Ça. Ouais, ouais. Oui, parce que eux t'apprennent.
C'est moi qui vais en formation ouais, là-bas, quoi, tu vois, vraiment, quoi. Moi, je fais juste une nappe sonore, là, derrière, je me mets derrière la batterie, et puis eux, ils font le taf, quoi. Et moi, je regarde et j'apprends, quoi.
Ouais, ouais. Et donc, t'as des. Ils viennent, ils rappent, ils chantent, ils font du sax, parce que je t'entendais tout à l'heure au téléphone ouais. avec un truc de saxophone. Voilà, il y a. Tout est à portée de main et juste ils jouent quoi.
Ouais ouais ils jouent. C'est des mecs qui ont jamais touché au saxophone ou qui tu vois qui écoutent ouais, ouais. pas du rap. T'as un mec. Enfin par exemple une petite anecdote. Donc Fifi le mec des Chulers ouais. quand tu le vois en live il fait flipper et tout. Tu te dis mais c'est qui ce mec putain il assure il est grave quoi. Tu vois y a plus de notion d'handicap on est au-delà quoi. C'est ouais. des mecs qui assurent quoi c'est tout. Et t'es waouh purée quoi. C'est ça qui est bon. Bah lui il adore la Reine des Neiges par exemple. Tu vois son okay. kiff c'est la Reine des Neiges. Voilà. Et donc tu vois après tu le vois sur scène et c'est tout le contraire.
C'est un animal.
C'est pas quelque chose de joli de mignon et tout ça. C'est bam quoi. C'est la puissance. C'est punk. C'est tu vois c'est okay. violent quoi. Et donc, voilà.
Est-ce qu'il y a un nouveau projet qui émerge comme les Chulers, tu vois, qui est vraiment un truc maintenant?
Aviel Salm, non. Mais il y a vraiment, à Ozzy, il y a vraiment un nouveau projet qui émerge qui s'appelle Chevalier Surprise.
Déjà, le nom est dingue.
Ouais. Et là, on fait une espèce de. On fait une espèce de rock psyché avec une espèce de batterie, une double batterie, où moi je me mets à la batterie, mais il y a en face de moi Omega, qui est Omega, c'est... C'est un tueur, quoi. C'est un tueur, il vient d'une famille de, une famille black qui font des messes le dimanche, et lui, c'est le batteur du groupe, quoi. Et c'est un tueur, quoi. Vraiment, il rappe. Enfin, c'est un jeune comme, qui est influencé par tout ce que les jeunes aiment, le hip-hop, nanana, les montres Swatch, Snapchat, je sais pas quoi, ouais, tu ouais. vois. Sauf qu'il, voilà, sauf qu'on comprend pas quand il parle, mais c'est, tu vois, un beau gars avec énormément de talent, quoi, vraiment. Et donc, il y a une espèce de double batterie où on se partage la grosse caisse, tu vois, on joue tous les deux en face de l'autre. Alors, il y a Fred qui est lui, enfin, Fred, qui est à la basse. Il y a Mehdi qui est au saxophone, Manon qui est au son psychédélique. Et puis, il y a, attends, il y a Juju qui chante. Une espèce de nerveux, tout tendu là, et qui s'exprime super bien, qui parle de toutes ses frustrations, donc qui parle de un morceau qui s'appelle Je te casse la gueule, parce que quand il va à la boulangerie par exemple, il déteste qu'on le dévisage. Ah oui. Tu vois, il en a marre, je vais te péter la gueule si tu continues, tu vois, voilà.
Okay. Oui, donc en fait, hyper conscient en fait de ce qui.
Il y en a qui sont très très conscients de leur handicap et même. Enfin, leur handicap, c'est pas un bon terme, l'handicap.
D'accord, il faut dire quoi?
C'est pas juste, c'est pas juste. Un handicapé, pour moi, c'est toi, c'est moi, c'est quelqu'un qui arrive pas à parler à un autre, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre une boîte de conserve qui est trop haute, qui a mal au bras, qui a mal à l'épaule. Ouais. Donc, les handicapés, c'est nous, en fait. Enfin, c'est tout le monde, finalement. Eux, c'est pas des handicaps, ils arrivent pas à faire quelque chose ou quoi. Ils sont différents, comme nous tous. Ils sont uniques, tu vois. Ouais, comme ouais. toi, t'es unique, comme moi, je suis unique, quoi. Tu vois, c'est. Enfin, voilà.
Et donc, toi, ton truc, c'est un peu justement d'aller rechercher en quoi ils sont uniques. Tu vois, par exemple, bah, c'est Jean. Donc, le chanteur.
Juju, Julien.
Ouais. Ouais, c'est lui que j'ai entendu au téléphone de Juju avant ouais. qu'on commence. Et. Mais finalement, c'est un peu. C'est une partie de ton travail, c'est d'aller chercher ce en quoi ils sont uniques, en quoi Omega, c'est un batteur de fou. Tu vas chercher un peu leur
Non, je vais pas chercher leur talent, parce que le talent, il est clair, j'ai pas besoin d'aller le chercher, il est là, quoi, tu vois. Mais c'est plutôt d'organiser tout ça.
Oui, c'est ça.
Que tout devienne un peu plus. Que la proposition soit claire, tu vois, voilà quoi. C'est juste de structurer un petit peu, c'est tout, quoi.
D'accord.
Parce que le côté freestyle est vraiment jouissif, en fait, quoi. C'est ça l'intérêt du bazar, quoi, vraiment. Et donc, moi, voilà, moi et Rémi, notre rôle, c'est de structurer.
D'accord. Ben, donc on est toujours un peu dans les trucs d'art et tout ça. Là, c'est un peu la première. La première rubrique qui revient dans
chaque... On mettra le lien du Facebook de Chevalier Surprise.
Évidemment,
voilà.
Évidemment. Il y aura un post avec toute la description du podcast, avec tous les liens dont on parle, ouais. Tout sera retrouvable là-dedans.
Super.
Et donc, comme je disais, là, on va rester un peu dans l'univers un peu de l'art et de la création plutôt plastique. Et je te demandais de me préparer une image. Donc ça, c'est, c'est la rubrique récurrente dans chaque épisode. Je demande qu'on me montre une image. C'est ce qu'on appelle l'ekphrasis. L'ekphrasis, ça vient du grec. C'est une sorte de description super détaillée. Vu qu'on est à la radio, je décris une image à la radio de ce que je vois.
Ok, donc je dégaine mon téléphone.
Dégaine ton téléphone, dégaine ton image.
Que j'ai prise... Enfin, je ne l'ai pas prise. Je l'ai prise aussi sur le net.
Tu l'as volé sur Internet.
Je l'ai volé sur Internet. Et donc,
alors yes, qu'est-ce qu'on voit? Alors donc, on a deux sculptures qui sont une sorte de poupées. On en a une à gauche. Donc c'est une sorte d'enfant dans une boîte en carton. Enfin, genre qui se serait fait un déguisement de robot en boîte en carton qui tient, j'imagine, une sorte de. Je vois pas bien, mais c'est une sorte de trompette ou quelque chose du genre.
Ou une arme, un faux pistolet, voilà. Ou je sais pas quoi, avec une ampoule sur la tête.
Voilà, il a une ampoule sur la tête, il a des baskets mauves. Et puis à côté, il y a une autre enfant qui est une fille en salopette bleue, salopette jupe, qui le regarde un peu bizarrement. Enfin, on dirait qu'elle le regarde. Donc c'est, j'aurais à mon avis, sculpture en papier mâché ou un truc comme ça. Et alors derrière, il y a.
Alors, oui. Oh, vas-y, excuse-moi.
Il y a plein de planches qui sont badigeonnées de peintures de toutes les couleurs avec des dessins super bruts. Il y a écrit pipo, il y a écrit, on dirait qu'il y a écrit malsain, il y a un dessin de chat, enfin c'est vraiment le bordel derrière. Il y a plein de planches, plein de couleurs, plein de trucs. Et les deux sculptures comme ça sont sur des sortes de piédestals en bois qui sont aussi bordéliques, donc c'est vraiment le bordel dans le truc. Mais les deux personnages sont quand même assez détaillés, même si c'est assez brut. Et voilà, par contre, moi je n'ai pas reconnu les auteurs, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, maintenant je te demande de m'expliquer donc, qui, pourquoi, en fait, comment.
Voilà, ça c'est le travail de mon père en fait.
Ah d'accord, ok.
Et donc c'est pour aussi mettre une image sur ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Au début, il n'était pas du tout dans ce genre de truc. Attends, qu'est-ce que tu veux qu'on dise exactement ?
Pourquoi tu as choisi cette image-là ?
Je trouvais ça cohérent, en fait. Tu vois, parce que j'avais pensé... Je voulais montrer quelque chose de brut, en fait. Quoi, parce que pour le moment, voilà, j'ai ma manière d'aborder la musique, ce que je fais avec les handicapés, tout ça, c'est... Je crois que... C'est ma voix, enfin c'est pas ma voix, c'est toujours été ma voix, mais là je l'assume à crever, quoi, je l'assume à fond. Et donc je trouvais ça cohérent de montrer une image de mon père finalement. Est-ce que, tu vois, voilà, on va parler du père, du chemin qu'il emprunte, du chemin que moi j'emprunte finalement, tu vois, c'est Star Wars, quoi.
C'est ça, voilà, c'est Star Wars.
Donc voilà, il y a un côté, voilà, il y a plein de symboliques, il y a plein de choses à dire, quoi. Maintenant... qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ça, c'est vraiment son travail de maintenant.
D'accord.
Tu vois, tu dis que c'est très brut, c'est assez violent, mais finalement, c'est ultra gay. Avant, c'était pas marrant, quoi, ce qu'il faisait. Ah c'était, ouais, c'était ultra noir, ultra... C'était des... Il peignait des moments de gêne, en fait, quoi. De gêne face à ses parents, face aux autres, dans les cafés, les sales gueules des cafés, des mecs qui... Il peignait les gens qui ne le comprenaient pas, je crois, d'une certaine manière, quoi. Mmh. Tu vois, avec des sales gueules qui te regardent et qui te dévisagent. Et maintenant, comme il accepte sa vie et comme il vit pour le moment, enfin, tu vois, ça va pour lui, il n'a pas à se plaindre, quoi.
Tu veux dire qu'il, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être le fait qu'il soit maintenant, qu'il puisse totalement se concentrer sur ça et qu'il arrive à vivre de son art.
Il vit de son art depuis quand même pas mal de temps. Il y a eu un gros passage dans sa vie, une grosse page qui s'est tournée. Maintenant, il assume à fond et il s'est créé son monde avec des gens qui l'entourent, qui le respectent, qui le poussent à être comme ça, tu vois, ce qui n'était pas le cas avant, quoi. Et donc, du coup, son travail devient beaucoup plus... beaucoup plus... lumineux, beaucoup plus gay, alors que c'est quand même des gosses avec des sales gueules, tu vois.
Ouais.
C'est des gosses marqués, tout ça. Comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui se passe derrière, c'est sacrément bordélique, mais c'est une espèce de bordel. Moi, je trouve ça super beau, en fait. Ultra poétique, c'est plein de dessins d'enfants, là. Et voilà. Voilà.
C'est ça. Et donc, c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être cette frustration de ne pas être compris à l'époque qui s'est un peu apaisée. Et maintenant, il peut justement...
L'assumer à fond.
L'assumer à fond.
Ce qu'il est. Ce qu'il est.
Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a clairement un parallèle entre la manière dont tu m'as décrit ton père, quelqu'un qui ne sait pas du tout s'exprimer et qui n'arrive pas à se faire comprendre et qui est... qui reste un peu coincé à l'intérieur de lui-même. Et les personnes avec qui tu travailles maintenant, c'est un hasard probablement que tu sois tombé là, mais c'est pas non plus un hasard. Oh. Si tu travailles avec des gens, même si ton père n'est pas une personne handicapée, mais il y a un peu les mêmes symptômes, tu vois, de renfermement.
En fait, ça m'a appris. Tu vois, moi, je suis né là-bas, tu vois, je suis né, bam, dans une espèce de. Dans une tribu où il y avait un mec qui savait pas s'exprimer. Et alors, moi, j'ai grandi avec ça. Mais moi, mon père, je sais, avant qu'il ouvre la bouche, je sais ce qu'il va dire, quoi. Tu vois? Donc, moi, je le comprends vraiment, quoi. Ouais. Je veux dire, il y a des fois, je lui dis, ah oui, tu veux parler de ça, tout ça. Mais bon, il faut pas non plus s'imaginer que c'est un mec qui sait pas ouvrir. Ouais, si, il parle. Mais disons que voilà, Je veux dire, si jamais quelqu'un, je sais pas, quelqu'un, c'est un personnage atypique, je vais dire, voilà, ouais, quoi, ouais. Tu vois. Et pas toujours bien compris, c'est toujours pas dire le prénom de ma femme, alors que, voilà, elle s'appelle Estelle, mais il arrive pas à le dire, tu vois, il dit Dextrelle. Donc voilà, c'est super beau, quoi, tu vois, ouais, c'est ouais. Plein de poésie, quoi.
Tout à fait.
Donc il faut pas imaginer. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le fait que j'ai été baigné là-dedans, que j'ai appris je le comprends sans souci, je pense que ça m'a donné des clés ou des facilités peut-être que ça m'a donné des facilités pour comprendre justement, enfin, avec le travail que je fais le moment, vraiment. Ouais. C'est pas dans la parole, c'est plutôt dans le ressenti. Je comprends le ressenti fort, quoi. Ça, tu vois, ouais. ça c'est sûr. Mais aussi, ouais, dans la parole. En tout cas, je vais pas m'offusquer s'il me dit je comprends pas ce que tu dis, tu vois, c'est pas grave, quoi.
Et tu vas pas te moquer,
ouais,
quoi.
Ou bien je rigole parce que c'est marrant, oui, tu c'est vois ça, voilà, quoi. Ouais. Mais non, je vais pas me moquer jamais, ouais, quoi. Ouais, mais bon, ça. Voilà, moi je marre, ça, y a sûr, aucune, je rigole,
c'est
quoi.
Ça, t'as pas de gêne, ou t'as pas ce truc que parfois des gens handicapés comme toi et moi, ouais. Tu le disais tout à l'heure, peuvent parfois une espèce de gêne qu'ils peuvent ressentir quand il y a une personne handicapée, tu sais pas comment le regarder, tu sais pas où, comment être vis-à-vis de lui et tout ça.
Et ce qui est fou, c'est que en fait, c'est pas tellement la personne handicapée qui est gênante, c'est tous les gens qui se rendent compte qu'il y a une personne handicapée qui est là et qui sont gênés, ouais. Finalement c'est pas la personne handicapée qui est gênante, parce que moi je pourrais me retrouver dans un endroit où il y a une personne handicapée qui se met à côté de moi. Ce qui me gêne, c'est pas la personne, c'est les autres qui sont gênés,
ouais, ouais.
Et c'est une espèce de groupe, les gens normaux, entre guillemets, qui sont gênés de voir une personne handicapée, tu vois. Oui. Ça, c'est dingue, ça. Ça me dépasse. Pour moi, un trisomique, que les gens soient gênés au restaurant de s'asseoir à côté d'un trisomique, ça me dépasse à fond.
Mais oui.
C'est vraiment dingue. Je veux dire, c'est un cadeau, quoi. Je veux dire, tu vois, ce qui me dépasse aussi, c'est que des trisomiques, on les fout tous ensemble, ils sont pas mélangés, on les laisse tous ensemble dans un centre, ils vont pas à l'école avec les autres et tout.
Ouais.
Alors que ça pourrait, tu vois, déjà ça pourrait aider à l'acceptation, qu'ils soient des gens qu'on ne regarde même plus, tu vois.
Ouais,
et puis, deuxièmement, moi personnellement, quand je trouve qu'ils apportent quelque chose vraiment à la société, moi je fais une trisothérapie, moi, je te jure, ils m'aident avec les relations humaines, quoi. Socialement, ils m'aident à me comporter normalement, en fait, quoi. Parce que je me suis déjà rendu compte, mais ça, c'est mon handicap à moi, c'est que des fois, je suis mal à l'aise.
Dans la vie.
J'arrive pas à communiquer. J'arrive pas à socialement être cool, tu vois.
Okay.
Quand je vais à une soirée ou quoi, j'arrive pas. Il y a des fois, ça me dépasse, il faut que je me casse, quoi.
Okay.
Et eux, ils m'aident à fond. C'est ma trisothérapie, ils m'aident à me comporter normalement et à ressentir ce que je dois ressentir au moment et à l'assumer, quoi. Voilà, okay. C'est tout.
Trisothérapie, c'est toi qui viens d'inventer ce mot?
Depuis que je travaille là-bas, c'est un mot. Okay. Un copyright à Rémy Rothsart, quoi.
Okay.
Ouais.
Mais en tout cas, ça te dit ce que ça veut dire, quoi. T'apprends sur toi en discutant avec eux, en étant là-bas, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ils m'aident vraiment à aborder la vie d'une autre manière. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens, si quelqu'un écoute ça, et que...
Personne n'écoute, de toute façon.
Ouais, voilà. Et qu'il est confronté à un trisomique ou quoi, et ben de...
Discuter, partager.
Peut-être pas, non, pas aller vers lui ou quoi, nanana, mais s'il vient vers. Voilà, qu'il ne soit pas. Qu'il en profite, quoi.
C'est ça.
Si jamais il y a un échange, qu'il en profite, quoi. Ouais. Vraiment, quoi.
Et j'aime beaucoup ton image du cadeau, dire que c'est un cadeau de pouvoir côtoyer ces personnes. Mais j'embraye, c'est une des questions que je voulais te poser par rapport. Tu dis que parfois, quand tu es en soirée, tu es un peu down et tout ça, et tu as envie de partir et tout ça. Et moi, je me posais la question, parce que voilà, ça fait 20 ans que tu fais de la musique. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Tropic sur scène, vous êtes tous complètement tarés. Genre, je ne te reconnais pas là, maintenant, la personne posée qui est en train de me raconter sa vie, ses enfants, sa famille. Et quand t'es sur scène, t'es un animal. tu sautes partout, tu te jettes par terre, tu te mets à poil parfois, c'est un truc.
C'était avant, il y a quand même longtemps, quoi.
Voilà, ouais. Mais peu importe. Et une question que je me posais, c'est, enfin, vu que ça fait quand même énormément de temps, tu peux pas être tous les soirs quand tu joues nécessairement à fond ou avoir passé une bonne journée, quoi. Il y a quoi? Il y a un déclic, il y a un truc à un moment tu te dis pour, allez, il faut que j'oublie tout et là maintenant je dois, j'ai 50 minutes pour tout donner, je dois juste être dirty cock, quoi.
Non, ça c'est abordé, c'est très il y a des, c'est pas toujours comme ça, tu sais bien, des fois t'es en tournée, il y a un concert n'est pas l'autre, tu vois
aussi, ouais.
Alors, l'exercice que j'essaye vraiment d'appliquer à fond, c'est de pas être hors propos.
Ok.
Tu vois, je vais pas donner la même chose que ce que j'ai donné la veille. Si la veille c'était cohérent que je me roule par terre et tout ça, voilà, je veux être, c'est encore une expression, celle-là je l'ai inventée, c'est le vagabond de ma vie. Je veux vraiment pas me poser de questions, ou je veux aborder tout de manière cohérente en fait, quoi, tu vois. Souvent, quand on va voir un concert, ou souvent, ça m'est déjà arrivé de voir ça, où c'est des mecs qui reproduisent un schéma à chaque fois.
Okay.
Ils savent qu'à ce moment-là, ils font ci, ils font ça. À ce moment-là, on pète plus les plombs. À ce moment-là, nanana. À ce moment-là, voilà. Ce qu'on essaye de faire avec Tropic, et puis même dans la vie en général, c'est d'aborder le truc de manière cohérente, en fait. S'il ne se passe rien, il ne se passera rien sur la scène, quoi.
D'accord.
Tu vois? Et je ne vais pas essayer d'aller chercher. Il faut que ce soit quand même une communion. Il faut que ce soit... C'est pas un truc... C'est une communion, en fait.
C'est
quoi. Voilà.
C'est pas une comédie, c'est une communion.
Voilà. J'essaye vraiment que... De pas... D'être en symbiose avec les gens. Et puis aussi de partir en une espèce de voyage mental, quoi, tu vois, partir et d'essayer d'être en auto-hypnose ou je sais pas quoi pendant 50 minutes, quoi, tu vois. Et un mec qui arrive très bien, c'est Jean-Jacques, le chanteur de Tropic, qui lui, il m'hallucine, quoi, vraiment, quoi, il y arrive, quoi, vraiment à partir, bam, dans un état second.
Alors que lui est encore plus calme que toi dans la vraie vie.
Oui.
Quand je le crois, déjà, je le croise pas souvent parce que je ne le vois pas souvent. Ouais, il sort pas souvent, peut-être.
Non, il sort pas souvent.
Je le vois vraiment juste au concert de Tropic, et puis après, on discute comme ça. Mais il a vraiment cette image de gars super calme, super posé. Mais sur scène, c'est. Je t'ai coupé, en fait. T'étais en train de me parler de Jean-Jacques qui... à rentrer en hypnose.
Sortir de lui-même, c'est ça. Une espèce de truc qui se passe. Donc voilà, pour répondre à la question, ce qui est très très important, j'essaye d'aborder le live et pas être à côté de la plaque, quoi, en fait.
C'est
quoi. Voilà. C'est compliqué, parce que tu vois, tu passes... C'est quand même, bam, c'est les carousels, quoi. Tu passes par des moments down et des moments ultra up, là, comme ça. Ouais. C'est un drôle de truc, la musique, putain, quoi. C'est vraiment un truc de... C'est un drôle de truc.
Pourquoi on fait ça?
Ben, c'est un drôle de truc, C'est un drôle de truc. Enfin, moi, maintenant, je sais pourquoi je fais ça. C'est pour faire les vacances rock. Enfin... En tout cas, non, je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que c'est plus fort que moi, déjà, de un. Ouais. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on part en vacances, tout frais payé, le temps avec les potes, et on rencontre des gens. Moi, c'est les meilleures vacances que j'ai jamais passées de ma vie, quoi.
Ouais, ça te fait des souvenirs de dingue.
C'est des vraies rencontres, quoi.
On appelle ça les vacances du rock aussi, entre nous. Là, on va partir 15 jours au Canada.
C'est des vacances du rock, ça. C'est l'aventure, quoi.
Ça va nous coûter de la blinde, parce que voilà, on n'a pas d'assez gros cachet pour rentabiliser tout ça. Mais voilà, on va partir avec un autre groupe français, avec Lysistrata, qui sont super, avec qui on est super potes. Il y a un autre groupe aussi qui tourne avec nous qui s'appelle The Makeovers, qui est un groupe d'Afrique du Sud. Et on sera à 12-13 dans une grosse camionnette avec tout le matos derrière, et ça va être 15 jours de vacances.
Bah ouais.
Voyager au Canada, quoi.
Donc,
Et quand tu arrives à rentrer dans tes frais, c'est encore mieux. Quoi.
Ouais, mais, voilà, ouais. Peut-être que dans 20
dur,
ans. Ouais.
C'est dur.
Mais d'ailleurs, donc, en parlant de vacances du rock, New York City.
Ouais.
Vous êtes parti en 2010-12.
Je sais plus exactement. Ouais, faudrait aller regarder.
Je le mettrai dans les notes. C'est pas si grave.
Ouais.
Mais donc c'était pour l'album avec John Spencer. Vous êtes.
C'est ça, ouais.
Vous êtes allé enregistrer à New York.
Ouais.
Bah, raconte-moi un peu comment ça s'est passé, comment vous l'avez contacté, est-ce que vous.
Bah écoute, on avait fait quelques fois sa première partie. Et alors, nous, on se demandait ce qu'on allait faire. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas avec lui, ce serait vraiment super. Puisque moi, j'adore le John Spencer du début, en tout cas. Quoi. Vraiment, ça a été un moment donné dans ma vie, ça m'a un peu, comme Nirvana, ça m'a un peu changé, en fait. Quoi. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a fort marqué, quoi, ce truc-là. Et donc voilà, on lui a demandé. Simplement, s'il voulait bien produire le disque, il a dit oui. Et puis on s'est retrouvé 15 jours à New York à travailler avec lui en studio.
Est-ce que c'est John Spencer au départ qui vous a donné envie de faire du blues avec Tropic ? Ou vous aviez déjà ce truc avant ? Tu vois, parce que le blues, c'est pas. Enfin, quand tu commences à faire de la musique dans les années 2000, c'est pas le premier truc que tu te dis que tu vas faire. Est-ce que c'est un truc qui venait. D'où c'est venu, en fait, cette envie de faire du blues ?
Tu vois, à l'époque, attends, quoi. On était jeunes, quoi, quand même. On était toujours à l'école et tout ça. Et ça a été vraiment une blague, en fait, Tropic au début, quoi. C'était. Ça a été un concours de circonstances, quoi, ce groupe-là. C'est à l'école, à Saint-Luc, il y a la Saint-Luc. Et à la Saint-Luc, l'école. Et offerte aux élèves, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, avec David, on avait décidé de faire une espèce de concert. Mais bon, moi, j'avais un bonjo, je savais pas jouer. Et David n'avait jamais touché de batterie. Et ça a été un succès. Et puis, on nous a demandé de rejouer. Donc, du coup, j'ai demandé à Jean-Jacques de venir nous rejoindre. Et
David, vous jouiez déjà ensemble dans Sissic.
Dans Sissic, ouais. Jean-Jacques m'a appris à jouer de la guitare et tout ça. Donc, tu vois. Et donc, après, bam, enfin, voilà. Et au fil des années, c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Mais donc, le blues. Donc, comme David ne savait pas jouer, que moi non plus, pas vraiment, et ben, le blues, c'était vraiment super, en fait, parce que c'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est une suite de notes, tu fais vite un truc, quoi. Et, attends, je m'emmêle un peu les pinceaux parce que je suis toujours à New York, à Liège, là.
On peut y retourner, si tu veux, à New York. Donc, en fait, ma question, c'était juste savoir, est-ce que c'était John Spencer qui a été une de vos influences, qui vous a fait faire du blues ou non?
Il y avait
le blues était
blog
déjà...
et tout ça. À l'époque, on écoutait beaucoup de garage. C'était vraiment l'époque où le garage était fort présent avec les Cramps et tout ça. Tu vois, avec Bob Log qui était vraiment, Bob Log arrivait, c'était bon, là, qu'est-ce que c'est que ce truc, l'OVNI, là. Et puis il y avait toujours toutes ces influences aussi du passé, donc voilà. Et
Et donc John Spencer, vous faisiez ses premières parties.
On faisait ses premières parties, puis on lui a demandé de produire le disque, et puis voilà, on s'est retrouvé à New York pour faire un disque avec lui.
Avec lui, dans son studio.
Dans le studio de Matt Vertare, en fait, de Speedball Baby.
Ok, d'accord. Et l'expérience, du coup, vous vous êtes dit. C'est genre un achievement, genre ça y est, on a atteint un des objectifs qu'on voulait, ou non, c'est juste, ça fait partie de l'histoire, c'est une pierre.
On en a profité au moment où on l'a fait, en fait. Quoi. Voilà, c'est une pierre.
Vous étiez déjà vagabond de votre vie.
Le terme n'était pas encore là, mais c'était déjà ça.
C'est ça.
Et voilà, on a profité juste du moment, on s'est fait plaisir, en fait, quoi.
Et puis c'est une belle histoire à raconter après pour vendre le disque, le fait de l'avoir fait avec John Spencer.
Ouais, c'était pas le but vraiment. Moi je voulais encore une fois apprendre des choses, rencontrer quelqu'un, voilà quoi. C'était très très excitant du coup quoi. Tu vois quelqu'un que tu regardes à la télé et qui te bam, qui... Moi il m'a halluciné. Il y a ce live sur Canal+.
Genre à l'époque de Nulle Part Ailleurs,
Et moi je savais qu'il y avait John Spencer, il avait dit, moi je décomptais les jours quoi. Puis j'ai vu le truc, ce moment là, c'est un moment de télévision quoi.
J'essaierai de retrouver le lien YouTube, je le mettrai.
Waouh quoi, ça m'a scotché quoi, vraiment, ça m'a fort parlé.
Il faisait parce que moi je l'ai pas vu, je me souviens pas l'avoir.
Regarde-le quoi, c'est vraiment un moment de liberté.
C'est ça.
Un grand moment de liberté comme on ne retrouve plus vraiment maintenant. Tout est cadenassé quoi. C'est un moment télévisuel et de rock'n'roll, un moment de liberté en fait quoi.
C'est ça. D'accord.
Mais bon, pour en revenir au blues et tout ça, le terme blues, ok, c'est un terme, oui. Oui, okay, oui, on. Mais il y a surtout expérimental dans notre dans le nom de notre groupe en fait. Et c'est quelque chose qu'on maintenant qu'on l'assume à fond ce truc-là.
Ouais, ouais.
On est plus beaucoup plus expérimental que blues band,
c'est ça,
ou que tropic blues band quoi.
Ouais, ouais.
Tu vois. Alors ça s'est vu aussi avec les projets qu'on a fait avec les Belgians.
Ben j'allais y venir justement.
Où on a commencé à tâter un petit peu de ça, où on s'est permis d'aller voir un petit peu ailleurs, et puis il y a eu ce film aussi Spit and Split.
Ouais, ouais, ouais.
Et là maintenant on s'assume à fond là-dedans quoi.
Le groupe est donc genre juste une espèce de plateforme qui vous sert à expérimenter des choses.
Donc c'est ça exactement.
De Belgians, ouais. Vous avez expérimenté l'opéra rock.
Ouais, c'était pas que. Ouais, c'était une vision. Ouais, l'opéra rock à notre niveau, quoi. Voilà, c'était une espèce de. C'est plutôt un travail, quoi. Tu vois, c'est un travail artistique, quoi.
C'est ça. Donc voilà. C'était une nécessité
de faire quelque chose.
De changer le nom, d'en faire vraiment un projet à part, organisé par Tropic Blues Band, mais c'était un autre projet, quoi.
En tout cas, pas sortir un disque. Ouais. Pas sortir. Je vais dire en gros guillemets bêtement un disque.
C'est ça, ouais.
Je veux dire, on l'avait déjà fait 4-5 fois, c'était bon là, tu vois. Ouais, il fallait faire quelque chose d'autre.
Ouais.
C'était important, quoi. Yes. Pour le groupe. Sinon, le groupe, c'était fini, quoi, tu vois.
Ah, ouais.
Et voilà, je crois que Tropic, c'est. Maintenant, c'est ça. C'est des expériences, en fait, des laboratoires.
Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, le. Tout le côté Belgian, justement, vous. J'ai pas de questions précises, mais globalement cette expérience-là, en fait, ça vous a permis déjà de ne pas arrêter le groupe parce que vous aviez besoin d'expérimenter un nouveau truc. Et ça a été un déclencheur de quelque chose. Est-ce que
ça a été un déclencheur de quelque chose? Ça a été le déclencheur de Spit and Split, les Belgians.
Okay. Donc Spit and Split, c'est le film.
C'est le film. Et en fait, c'était, mais encore une fois, en mode vagabond de sa vie, tu vois. Parce que nous, on a juste envie de faire autre chose. On se dit, putain, on revient des États-Unis où on nous appelait tout le temps les Belgians. Here comes the Belgians. Hello, les Belgians. Les Belgians, c'est les Belgians. Et on s'est dit, putain, ce serait super de faire un espèce de concept avec des projections de la Belgique là derrière, etc. Donc on le fait. Et il y a Jérôme Van de Wattin qui travaille sur ce projet-là, qui est un jeune réalisateur qui a fait 2 ou 3 courts-métrages et avec qui ça match super bien, qui est le réalisateur du film, et qui décide de faire un reportage sur nous. Et qui monte dans le van. On part 15 jours en tournée, et après être revenu, il se dit, putain, je vais faire mon premier long, parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a un propos à défendre, quoi. Et alors, et voilà. Après, il est revenu pendant 2 ans. Pas 2 ans de tournée, mais je veux dire, il y a eu des tournées assez régulièrement. Pendant 2 ans, il est venu à chaque, et il arrêtait pas de filmer, quoi. Et plus il était là, et plus on s'abandonnait, en fait, quoi, à la caméra.
Et donc là, du coup, peut-être, vous étiez vous-même, mais en même temps, vous saviez que vous étiez filmé, donc vous deveniez votre propre personnage, un peu. Parce que.
Oui, c'est ça, c'est une caricature de nous-mêmes, mais quand même dirigée, parce que lui, il voulait quand même que. Donc le. Tu vois, il est monté, il y avait rien qui était écrit ou quelques lignes. Et le film s'est monté au fur et à mesure.
Et c'est écrit au fur et à mesure.
De ces 2 ans de tournée, ouais. Ouais. À un moment donné, après 1 an, il avait vraiment sa direction et tout était clair, quoi, tu vois. Et donc, du coup, on plongeait dans nos personnages, quoi, tu vois.
Ça.
Parce que bon, c'est une sacrée fiction, ce truc-là. Hein. Si vous l'avez pas vu dans le film, je suis une espèce de trou du cul fini. Et voilà.
D'ailleurs, justement, moi j'ai croisé Jérôme parce qu'on a joué il y a 15 jours, on a joué à Paris au Supersonic. Et Jérôme était là et on a parlé un peu de tout, de rien. Et on a parlé notamment du film et il me disait que vous avez. Donc, que le film commence un peu à tourner en France et donc vous essayez chaque fois de vendre le concert avec la projection.
Ouais.
Que vous commencez à entamer les festivals ou que vous avez déjà fait quelques festivals. mais qu'il y a notamment un festival, je crois que c'était au Canada, où le directeur du festival a refusé que vous ayez joué là parce que le mec a dit mais moi ce connard là dans le film je veux pas qu'il mette un pied à mon festival. Ouais, donc ouais. Le mec, bah, le film était tellement réaliste que le mec t'a vraiment pris au premier degré et pense vraiment que t'es ce connard du film, quoi.
Ouais, 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 c'est ça, mais c'est finement joué de la part de Jérôme, hein. c'est bien réalisé en fait, quoi. C'est vraiment bien réalisé. En fait, vraiment l'intérêt, c'est pas tellement l'histoire, c'est pas tellement l'histoire, alors qu'il y a quand même une histoire, il y a une espèce de fil rouge, mais c'est plutôt l'ambiguïté. L'ambiguïté, pour moi, c'est un 10 sur 10, quoi. Tu sais pas, en fait, quoi, jusqu'à un certain point, tu sais pas. Même moi, toujours maintenant, je le revois et je me dis, putain, non, quoi, j'arrive à me faire prendre au jeu. Alors qu'au début, on vend la mèche directement, il y a une grosse citation qui dit « ce film est faux », tu vois, c'est une fiction. Mais à chaque fois, tu te dis « mais putain, quoi, c'est pas vrai, quel trou de balle !» Et donc, du coup, on arrivait vraiment à jouer une espèce de... J'arrivais à jouer ce rôle du trou du cul, Snow arrivait vraiment bien à jouer le rôle de la victime, et on en jouait, quoi, tu vois. Et donc, après les séquences de camionnette et tout ça, quand ils disaient « action, là, on va faire une petite scène », après, on rigolait, quoi, tu vois, voilà, quoi. On se dit « oh, ça va être rigolo, j'aimerais juste voir ça, tu vois ». Voilà.
Et d'ailleurs, la prochaine étape avec le film, c'est parce que là, il tourne encore.
Il tourne, ouais. Ouais, mais
c'est quoi votre planning avec le film?
Donc le festival et tout, je pense que le festival du film, je pense que c'est vraiment là, c'est fini. Et puis d'ailleurs, notre but, c'était aller au Magritte, en fait.
Okay.
Et le but est, voilà, on a réussi. Et le but est atteint, donc c'est bon ça. Et donc là, le prochain truc, vraiment, c'est de proposer le film avant les concerts, en fait. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on le... Il y a quelques festivals de musique, des gros festivals de musique qui vont le projeter sur le festival. Pour moi, c'est super, quoi.
Ouais, ouais.
Dont le Download Festival.
Ah oui, un gros truc.
Un énorme, ouais, c'est énorme, énorme, quoi, tu vois. Donc voilà, le film sera projeté et puis on joue. Il y a quelques trucs qui sont en préparation et voilà, donc nous, notre but, c'est ça, c'est même partir en tournée avec un projecteur et un drap blanc quand les lundis et les mardis on joue dans des bars, quoi, tu c'est vois ça, de ouais, pouvoir ouais. le projeter, quoi, ouais, voilà,
ouais. Avant.
Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils nous voient d'une autre manière, quoi, tu vois, ils nous connaissent, quoi, finalement. Et donc, du coup, l'acceptation de cette musique brute, cette musique un peu tordue, eh ben, elle est beaucoup plus facile, quoi, pour les gens. Mmh. Et puis, ils nous connaissent, ils nous trouvent sympas. Enfin, bon, voilà.
On va rester donc dans la musique. Et je t'ai demandé aussi de me préparer un morceau à toi qui a été important dans ton développement, de réfléchir. Soit un morceau à toi ou soit un morceau de quelqu'un d'autre.
J'ai pas pensé à ça, tiens. J'ai pas réfléchi.
Si là tu devais me parler de quelqu'un qui a été important dans le développement de ton écriture, dans l'écriture de ton histoire ou dans la manière dont tu abordes la musique,
Il y a beaucoup. On est obligé de dire que un, tu vois. Il y a eu des gros passages dans ma vie. Il y a eu vraiment des pages qui se sont tournées, quoi.
Nirvana.
Voilà. Déjà, la base, c'est ça. C'est Nirvana. C'est encore une fois, on en revient toujours à ça. Nirvana, c'était très brut, quoi, finalement. C'est, y a pas de chichi, tu vois. Et maintenant que je me retrouve à travailler avec des handicapés, finalement, le lien, il est là, quoi, tu vois. Et Nirvana, ça a permis à prendre une guitare et pas se poser de questions et se dire, moi aussi, je peux le faire.
C'est ça.
C'est pas compliqué.
Toute notre génération, en fait, que ce soit Mike de Ititanita, que ce soit moi, on a commencé parce qu'on a entendu Nirvana et on a tous trouvé une guitare sèche.
Juste avant, c'était Metallica et Guns N' Roses, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'était plus compliqué, tu vois. On n'aurait pas pu faire de la musique comme ça, c'était pas possible. On n'aurait pas pu être du jour au lendemain Slash, quoi, tu vois. C'était impossible.
Ouais.
Par contre, être du jour au lendemain Kurt Cobain, ça, c'était complètement possible.
Ouais.
Tu vois,
c'est clair. Ouais.
Tu mettais un vieux pull, un jeans troué, et tu faisais un riff à la guitare et c'était bon, quoi.
Ouais.
Donc voilà, il y a eu vraiment ce passage-là. Nirvana, ça a été super important. Après, tout ce qui a découlé de Nirvana a été ultra important aussi. Surtout un groupe qui a été ultra. Qui m'a renfermé dans une espèce de prison très agréable, quoi. Qui a été Jesus Lizard, qui m'a enfermé dans le noise, en fait, quoi.
Okay.
Bam, quoi, tu vois. Et c'est bien et c'est pas bien à la fois. Ce qui est bien, c'est que je suis devenu très sélectif, en fait ultra sélectif, presque un nazi de la musique, quoi, parce que j'aimais rien.
Okay.
J'aimais rien. Je crois que ça, c'est le parcours de tous les jeunes, quoi, finalement. Et après, je me suis ultra fort ouvert. Donc, je parle de maintenant, vraiment. Mmh. Maintenant, j'écoute tout. Hein. Ça passe de la musique classique au hip-hop, au métal, en passant par toutes les musiques. Mais toujours un petit peu avec ce côté nazi, ultra sélectif. Ouais. Mais j'écoute tout, tu vois. Et donc, pour le moment, quelque chose qui me touche fort, en tout cas, c'est la musique africaine.
Ah ouais.
Et c'est pas l'afrobeat et tout. Hein. Je veux dire, en Afrique, ils ont fait aussi du rock comme les Américains le faisaient, quoi. Mais de avec rien, tu vois.
Oui, je me souviens, j'ai des compiles de garage rock éthiopien des années 70, des trucs fous, quoi.
Des trucs dingues. Et ce que j'adore là-dedans, c'est encore une fois la manière dont ils abordent le truc. C'est tellement magique, quoi. C'est l'énergie de l'envie. Tu vois ce que je veux
l'énergie
dire ?
L'énergie de l'envie, ouais.
C'est l'énergie de l'envie. Vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Nirvana. C'était l'énergie de l'envie, tu vois.
Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que, donc, il y a deux épisodes d'ici, je discutais avec Myriam Leroy. Et l'image qu'elle a montrée, tu vois, je t'ai posé la question tout à l'heure d'image, c'est une image qu'elle a prise quand elle était au Liberia. D'une espèce de Liberia, donc un pays dans lequel c'est le bordel et tout ça machin, et il y avait à même la terre battue un mec qui faisait de la batterie à côté d'une espèce de fête qui était complètement rangée, tu vois, il y avait des chaises empilées comme si la fête est finie, quoi. Mais il y avait un mec qui était en train de faire de la batterie comme ça sur la terre battue.
Ouais.
Et c'est l'énergie de l'envie, quoi, envie de faire des choses. Et
Oui.
Et donc,
Et ça me ramène à quelque chose, ce que tu dis. C'est aussi, en fait, au tout début, que j'ai rencontré d'abord Jean-Jacques, tu vois, qui jouait de la guitare. Il faisait le riff, il faisait Smell Like Teen Spirit avec sa guitare. Et moi, j'étais méga, méga impressionné. Et donc, j'ai ressenti l'énergie de l'envie. Et j'ai dit, putain, je veux jouer de la batterie avec toi. J'avais jamais touché une batterie. Et au début, ce qu'on faisait, c'est que lui, il jouait de la guitare et moi, je frappais sur des bouquins. Tu vois, je m'étais acheté une paire de baguettes et voilà, ça me fait penser à ça.
Ah ouais, c'était le début. Ouais, l'énergie de l'envie.
L'énergie de l'envie, ouais. Et c'est important de toujours avoir cette énergie de l'envie, quoi. Ouais,
c'est clair. Faire les choses, quoi.
Ouais.
Mais, et donc, là, tu m'offres sur un plateau ton nouveau projet, Ginger Bamboo.
Ah ouais.
Ah ouais, qui est issu justement un peu de cette nouvelle. Ces nouveaux sons que tu écoutes beaucoup.
Oui, c'est ça. C'est. Bon, c'est pas de l'afrobeat, hein, du tout. Hein. C'est pas ça. Hein. Voilà, c'est un petit peu la même manière d'aborder le truc, en tout cas. Sans chichi, un riff du début à la fin qui est un petit peu. Qui est un petit peu décoré, quoi. Mmh. Un petit peu. Qui est décoré, qui monte, qui descend avec des solos, nanani, nanana. Alors je me suis entouré de personnes qui sont des virtuoses, quoi, à savoir Rémi Rotsart, Alain Deval et Martin Daniel au piano. Il y a aussi Jasmine qui maîtrise pas mal sa voix, aussi Jasmine Tamaz. Mais du coup, j'ai absolument voulu qu'il y ait cette fraîcheur naïve. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Estelle Mas, ma compagne, de venir chanter, qui n'avait jamais chanté, en fait. Quoi.
Okay.
Et qui, je trouve, vraiment porte ce côté naïf et ce côté direct, sans chichi, pas intellectualisé, tout ça, alors que les autres, c'est des intellectuels de la musique, quoi.
Ils ont tous fait l'école du jazz.
Voilà, c'est des intellectuels, vraiment. Ouais. C'est des mecs qui vont loin dans la démarche musicale, c'est très pensé, tout ça. Et justement, je me suis Et justement, moi, je gère ça, en fait. T'imagines, le mec qui a appris la musique tout seul, il gère une espèce de la dream team des musiciens, quoi, tu vois, finalement. Mmh. Mais je la gère avec mon esprit, en fait, quoi, tu vois. Et je les amène là où il faut être brut, quoi, tu vois. Et donc, du coup, avec tout leur background et tout, ça donne des choses magnifiques, quoi. Enfin, de la maîtrise, quoi. C'est beau.
Ça me fait penser à Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, qui a fait la BO de There Will Be Blood avec un orchestre symphonique. Mais lui, il ne sait pas écrire la musique.
Ah,
donc, il n'a jamais appris la musique. Donc je sais plus trop l'histoire exactement, il faudrait relire le truc, mais il a dirigé un orchestre symphonique sans connaître la musique vraiment écrite, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il la ressent, mais il sait pas l'écrire.
Ouais.
Voilà, c'est un peu ça.
Ouais, il dirige, quoi. Ouais, toi, vous faites ça, vous faites ça, on va essayer ça, ça marche pas. Nan. Et puis, c'est des vrais instruments de musique. C'est des, putain, je prends mon pied, c'est génial. Ouais, il joue ça, tu vois. Je chante un truc, ils le font, quoi. C'est dingue, quoi, tu vois. Alors qu'avant, comment j'ai... au début de Sissik et tout ça, à l'adolescence, c'était fort de la parlotte pour ne rien dire, quoi, tu vois. Et puis, comme on ne maîtrisait rien, ça... c'était... Waouh, quoi. C'était l'apprentissage, en fait, quoi. Ouais, on essayait de comprendre.
Ouais.
Et donc, du coup, voilà, c'est très, 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 très agréable, quoi, de travailler avec des gens comme ça et de... Voilà, donc j'essaye d'aborder aussi de manière très instinctive... avec des mecs qui sont ultra balèzes. Donc ça donne un truc sympa, quoi.
Et donc là, dans le projet, vous en êtes où? Vous avez déjà fait des concerts? Vous avez un truc prévu qui...
Ouais,
qui
on a fait 5 concerts jusqu'à présent. Ça se passe super bien. On nous demande toujours... là, le bouche à oreille fonctionne à fond. On reçoit beaucoup, beaucoup de demandes. Mais seulement le problème, c'est que les autres groupes, ils ont tous... Enfin, les autres musiciens ont tous 8 groupes chacun, tu vois. Ils jouent tous les jours, tu vois. C'est des vrais musiciens. C'est leur gagne-pain, quoi. Tu vois, c'est eux, ils vont au bureau, quoi, tu vois. Ils travaillent tous les jours. Et donc, c'est compliqué. C'est très, très compliqué, quoi. On arrive et on doit tout refuser, en fait. On refuse beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Mais on a un concert de prévu en octobre.
Ok. Bon, ben, on y sera.
Ouais, et là, on est en avril.
Ouais.
Donc, voilà, la seule date qui fonctionne, c'est celle-là. Et c'est pareil pour les répètes. C'est ultra compliqué. Okay. Donc, on répète juste avant de jouer.
D'accord.
Et donc le truc aussi, comment ça se passe, c'est que je compose tout ici, chez moi, dans mon petit, parce que là on est dans mon petit home studio.
Merci de nous recevoir dans ton home studio.
Et très modeste, quoi, tout petit. Et tout est fait ici. Après, je leur envoie et je leur dis bon, salut les gars, on va jouer ça la semaine prochaine. Ah oui, tiens, on a 2 répètes, donc ce serait cool de pouvoir jouer ça. Et donc, voilà, en 2 répètes, on essaye de mettre sur pied un morceau qui existe déjà, avec les passages solos, mais les passages solos, c'est carte blanche, parce qu'ils sont bien meilleurs que moi. Je ne sais pas jouer du synthé, moi, tu vois, par exemple.
Ouais. Donc, voilà. Tu les diriges comme ça.
Oui.
Ok. Et, mais donc, justement, là, tu parlais de ton local, ton home studio. C'est... Une journée, par exemple, pour toi, tu fais ça tous les jours, tu viens du matin au soir et tu écris, tu composes.
Malheureusement, non.
Non.
Malheureusement, non. C'est mon meilleur ami et mon pire ennemi à la fois. Il me remet chaque fois à ma place. Cette putain de pièce me remet toujours à ma place, quoi. C'est quand ça. J'y vais pas, je... Encore une fois, il y a le souvenir de mon père qui montait dans le grenier.
Tous les jours à
19h. Tous les jours à 19h après une journée de travail, quoi. Moi, il y a des fois, je le fais pas et je m'en veux. Et puis après, tu vois, après avoir fait de la musique toute la journée, c'est compliqué, quoi.
Ouais,
tu
ouais.
vois, de revenir ici.
Ah oui, mais tu veux dire, tu fais quand même de la musique ailleurs, quoi.
Bah oui, mais j'en fais avec les handicapés.
Oui, c'est
puis,
ça.
Et puis j'en fais aussi avec Tropique.
Bah oui, mais...
voilà.
Mais donc c'est quand même.
Puis on me demande d'enregistrer des trucs, de préparer des bazars et de travailler pour moi, mais. J'ai pas vraiment besoin de faire ça avec Ginger Bamboo parce que on a quoi? Là, on joue 6 ou 7 morceaux qui durent chacun 15 minutes, tu vois.
Okay, ouais.
Donc voilà, le 7, on en a un et en plus, il y en a encore plein en attente. Plein parce que j'ai toujours fait ça en fait. J'ai toujours enregistré de la musique.
Ouais.
Donc il doit encore avoir 20 morceaux. J'ai vraiment dans mes valos, je traîne des trucs quoi. Donc à l'époque, depuis que j'ai 15 ans, ben, j'enregistre de la musique. Avant c'était avec 4 pistes Tascam, mais après j'ai plein de cassettes là que j'essaye de numériser, mais c'est un travail de malade. Et puis là j'ai l'ordi, j'ai des centaines et des centaines de morceaux, donc voilà, de la matière j'en ai, oui,
c'est ça. Mais ouais, donc du coup avec Ginger Bamboo, t'as quand même une idée de sortie de trucs.
On a une idée de sortie. Al Recril qui aimerait bien sortir un disque.
Cool.
Mais voilà, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de faire un disque où on va en studio et qu'on enregistre, voilà, c'est fait. Non, j'aimerais faire une, tu vois, on va sortir quoi, 210 qui a tout pété, quoi. Je veux faire une pièce, quoi. Je veux faire un truc, quoi. Un truc même presque inécoutable, je m'en fous, tu vois. Je veux faire une pièce, quoi.
C'est ça. Prendre finalement, enfin, ne pas attendre 20 ans ce que vous avez attendu avec Tropic pour finalement se dire que vous voulez vous concentrer sur autre chose que juste un album, quoi. Continuer à utiliser cette plateforme Ginger Bamboo pour faire un autre truc que juste un album.
Ouais, ou alors proposer aussi des trucs que je fais chez moi, aller enregistrer un solo de synthé tout seul ou avec un solo de batterie dessus. Bon, peu importe, des trucs crades, des trucs bien enregistrés dans un studio, des trucs de merde. Enfin, ouais. Tu vois, voilà, une fille qui chante toute seule, j'en sais rien, quoi. Mmh. Vraiment, une espèce de voyage musical comme ça où c'est compliqué quand même de faire ça. Et là, je suis en train de le faire, mais j'aimerais vraiment beaucoup faire un truc comme ça.
Voilà, je crois qu'on a quand même déjà abordé pas mal de sujets, hein. On est à quoi là? On est à une petite heure.
Ouais, on approche l'heure.
Bah, c'est très bien.
Tu vois, par exemple, ici, on a un instrument d'exception là, qui est. Enfin, j'aime beaucoup les instruments de musique en fait, quoi. Et j'ai un petit peu la collectionnite et puis aussi. J'adore, quoi.
Et donc ça, c'est quoi comme instrument ?
Alors ça, c'est un clavinet. Tu vois ce que c'est, les clavinets ?
Ouais.
C'est qui jouait de ça encore ? Stevie Wonder, tu vois, sur Superstition. C'est un clavinet. Et ça, c'est un putain de clavinet. C'est pas à moi, malheureusement, mais bon, je dois le nettoyer. Et donc, je répare aussi quelques instruments. Ici, on a des boîtes à rythme avec... Ça, c'est mes meilleurs amis, quoi, vraiment. C'est un truc... Grâce à ça, j'arrive à faire de la musique ici. C'est des vieilles boîtes à rythme vintage, toutes pourries. Une chambre à écho. Enfin, bon, voilà. Il faut venir...
Ouais, mais je ferai 2-3 photos, je les mettrai dans le poste. Il y a derrière des Moog et des synthés, il y a plein de guitares.
Et une très, très belle basse Hofner... c'est la basse avant, la basse violon, là, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est vraiment une très, très belle pièce. Et puis, j'ai aussi cette guitare que David D'Ascenzo m'a construit rien que pour moi. Mais c'est une Denso, en fait. Et on a un super luthier ici à Liège qui s'appelle David D'Ascenzo, qui construit des guitares d'exception, dont celle-là, avec une fuzz dedans. Il m'a mis une petite fuzz dedans, là. La fuzz factory.
Ah oui, la pédale est intégrée.
Ouais. Bon, et puis elle a une forme assez spéciale. Enfin, on a dessiné la guitare ensemble, quoi.
D'accord.
Voilà, et... Ouais, c'est tout.
Eh ben, c'est super.
Eh ben, merci beaucoup. J'espère vraiment ne avoir parlé aussi...
Déjà, on espère que ça a été enregistré. En fait, tu sais, on était là pour ça. Hein. Et on était là pour parler de toi. On était là pour parler de toi une heure. On est rentré en profondeur dans des trucs. On a parlé de ce. C'était super.
Ce qui est très important, ce que je voulais plus dire, c'était la. Ce qui est important, c'est aussi. Il faudrait que j'arrête de parler parce que je
m'en mets
les pinceaux, mais. Ce qui est important, c'est aussi... Ce que j'ai bien aimé dans l'interview, c'était le début de parler justement des autres, en fait, quoi. De comment les autres, ce qu'ils apportent, l'interaction. Enfin, tu vois, les trisomiques et tout ça, c'est vraiment un truc...
Mais c'est ça qui est intéressant.
C'est vraiment super, quoi. Ouais. Franchement, c'est vraiment super, ce truc, quoi.
Bah écoute, c'est super, merci beaucoup de m'avoir reçu et voilà, bah que
tout. Bah merci aussi Damien, on serre la main.
C'est génial.
À bientôt. Cool.
Merci, salut.
Je coupe. Hein. Salut.
Allez, bisous. Hein.